Radio Prague, les informations. Bonjour, Barack Obama devrait bien venir à Prague en avril prochain. Le ministre de l'Environnement entend interdire la distribution gratuite de sacs plastiques dans les commerces. Et enfin, en athlétisme, l'Éthiopienne Messera Defar a signé un nouveau record du monde lors du meeting de Prague. L'information annonçant la venue à Prague du président américain le 4 avril prochain a été confirmée vendredi par une source diplomatique. Selon cette source, Barack Obama pourrait être accompagné de la chef de la diplomatie américaine, Hillary Clinton, et du ministre de la Défense, Robert Gates. Le gouvernement tchèque, qui préside actuellement l'Union européenne, entend organiser une rencontre au sommet entre les chefs d'État et de gouvernement des 27 et le président américain. Les discussions devraient tourner entre autres autour du projet américain d'installer un système de défense antimissile en Pologne et en République tchèque. La Hongrie a réclamé de l'aide à l'Union européenne pour les pays d'Europe centrale et orientale. Budapest demande à Bruxelles d'établir une liste de mesures de stimulation d'un montant de 180 milliards d'euros afin de soutenir les banques, les entreprises et les économies de ces pays. Cet argent devrait leur permettre de faire face aux conséquences de la crise financière. De son côté, le ministre tchèque des Finances, Miroslav Kalousek, a réagi à cette information en déclarant que la République tchèque ne se trouvait pas dans une situation où elle aurait besoin de réclamer de l'aide et qu'elle n'envisageait pas une telle démarche. Ces derniers jours, les représentants tchèques ont rappelé à plusieurs reprises que la situation économique tchèque était à l'heure actuelle bien meilleure que celle d'autres pays en Europe centrale et orientale. Le ministre de l'Environnement et leader du Parti des Verts, Martin Bursik, entend interdire la distribution gratuite de sacs plastiques dans les commerces du pays. Selon le ministre, jusqu'à 3 milliards de sacs sont en effet donnés aux clients chaque année, soit environ 9000 tonnes de plastique. Cette interdiction fait partie du projet de nouvelle loi sur le traitement des déchets que Martin Bursik entend présenter en mai ou juin prochain à la Chambre des députés. Le nombre de travailleurs étrangers en République tchèque a diminué de 12 000 au cours du mois de janvier. Un peu plus de 272 000 personnes travaillaient légalement en République tchèque à la fin du mois de janvier. Ces chiffres proviennent des données communiquées vendredi par le ministère du Travail. C'est la première fois depuis plusieurs années que le nombre de travailleurs étrangers baisse. En janvier, le taux de chômage en République tchèque s'élevait à 6,8% contre 6% en décembre dernier. On passe au sport. En athlétisme, l'Éthiopienne Messera Defar a battu le record du monde du 2 miles en salle en 9 minutes 6 secondes et 26 centièmes jeudi soir lors de la réunion d'athlétisme en salle à Prague. Messera Defar, âgée de 25 ans, a ainsi amélioré de plus de 4 secondes son précédent record établi en janvier 2008 à Boston. Au championnat du monde de ski nordique qui se poursuivent jusqu'à dimanche à Liberec, c'est la Norvège qui a remporté le relais 4 x 10 km inscrit au programme de ce vendredi. Les Norvégiens ont devancé d'extrême justesse l'Allemagne. La Finlande termine 3e. Quant aux Français et aux Tchèques, ils se sont respectivement classés 9e et 12e. On termine avec un mot de météo. Le ciel reste couvert avec des averses passagères. Samedi, jour de la fête des Lumières, les températures sont en hausse et se situent entre 5 et 9 degrés pour les maximales. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Quel le plaisir de vous présenter Guillaume Narguet. Merci de votre attention.
Faits et événements en République tchèque. Václav Richter.
Un accord sur la création de boîtes postales électroniques a été signé ce vendredi entre le ministère de l'Intérieur et la Poste tchèque. La production de petites cylindrées augmente en Tchéquie. L'opéra Mort à Venise de Benjamin Britten a été présenté dans le cadre du festival Opéra 2009. Entretien avec Daniela Foltinova, artiste tchèque installée en France depuis une vingtaine d'années. Tels sont les thèmes que nous avons choisis pour ce tour d'horizon de l'actualité tchèque préparé par la section française de Radio Prague et présenté aujourd'hui par Václav Richter. Un accord sur la création de boîtes postales électroniques signé ce vendredi entre le ministère de l'Intérieur et la Poste tchèque devrait rendre plus sûre et plus rapide la communication entre l'administration et les citoyens et apporter une économie annuelle de plusieurs millions de couronnes. Jarka Gisiblova pour plus d'informations.
Une petite révolution pour les Tchèques habitués à ce que les lettres recommandées leur soient apportées par les facteurs. Un réel changement se produira au milieu de l'année. À partir du 1er juillet, les institutions, les personnes inscrites au registre du commerce seront appelées à communiquer exclusivement par la voie électronique. Petr Stigler, directeur du développement des services et de la communication électronique de la Poste Tchèque, qui assurera la gestion du système, précise qui aura cette obligation.
Elle sera obligatoire pour l'ensemble des bureaux de l'administration publique, les entreprises, les municipalités, les magistrats, les tribunaux, les organes du pouvoir public, parmi lesquels on compte par exemple aussi la télévision et la radio du service public, sans oublier les personnes morales inscrites au registre du commerce.
La création des boîtes postales électroniques sera automatique et gratuite pour les institutions concernées. Son attribution sera indiquée aux représentants et aux directeurs de ces organes en même temps que les données d'accès. La boîte postale électronique est un nouveau pas vers l'instauration du système dit e-government, donc une communication exclusivement électronique entre l'administration et le citoyen. Le rôle de la Poste tchèque dans ce système est élucidé par Petr Stigler.
La Poste tchèque est un médiateur traditionnel dans la communication entre les personnes. Puisque les boîtes postales électroniques remplacent les boîtes aux lettres classiques, il est logique que ce rôle soit joué par la Poste, d'autant que la loi sur les actes électroniques stipule que cela doit être le propriétaire de la licence des postes.
La création de boîtes postales électroniques devrait apporter à l'État une économie de plus de 200 millions de couronnes par an. Son atout principal est qu'elle simplifiera, accélérera la communication et par la suite les prises de décision des institutions concernées. Une vaste campagne de promotion accompagnera le lancement du système qui introduit un réel changement dans notre milieu.
Pendant un mois, le plus grand constructeur automobile tchèque, Škoda Auto, avait arrêté sa production le vendredi en raison des conséquences de la crise économique mondiale sur l'industrie automobile. La direction de l'usine a décidé de reprendre la production à plein temps, car la demande sur le marché des petites cylindrées, surtout, est revenue à la normale et la dépasse même pour certains modèles. D'autres constructeurs établis en Tchéquie constatent le même effet. Le sujet est développé par Alain Slimanski.
Škoda Auto reprend la production à plein temps, surtout de son plus petit modèle, la Fabia, car elle est de nouveau très demandée sur le marché automobile de l'Europe de l'Ouest, mais aussi des plus gros modèles, Roadster et Superb. À partir du mois d'avril, la production à plein temps du modèle Octavia reprendra aussi. Les Škoda se vendent très bien de nouveau dans les pays qui ont introduit des mesures pour relancer l'industrie automobile, comme l'explique le porte-parole de Škoda Auto, Jaroslav Černý.
La demande des Škoda a augmenté dans certains pays, comme en Autriche, en Allemagne ou en France, où la prime à la casse ou d'autres mesures ont été introduites. Et nous devons y réagir. Pour cette raison, donc, nous reprenons la production à plein temps.
D'autres usines sont confrontées au même phénomène et le constructeur Hyundai, établi en Moravie du Nord, pense même introduire la production le samedi. L'usine TPCA de Kolyne, à une centaine de kilomètres de Prague, annonce aussi une augmentation de sa production en raison de la prime à la casse adoptée par 9 pays de l'Union européenne et son directeur, Jiří Černý, ne peut que confirmer sa satisfaction.
À TPCA, la production est constante depuis le dernier trimestre de l'année dernière. L'usine tourne au maximum de sa capacité.
Avec la reprise de sa production à plein temps, Škoda Auto se retrouve confrontée à un problème auquel elle ne s'attendait pas. Elle manque de main-d'œuvre, car elle a licencié la plus grande partie de ses employés qui étaient engagés par les agences de recrutement. Aujourd'hui, les syndicats rechignent à lui permettre d'introduire des heures supplémentaires. On peut constater aussi un autre effet positif de la relance dans l'industrie automobile. Les ventes des sous-traitants sont en hausse, et cela est très important, car ils emploient des dizaines de milliers de personnes, souvent dans des régions où il est difficile de trouver un emploi.
Le festival Opéra 2009, qui permet aux Pragois de connaître les meilleures productions de troupes lyriques de toute la République tchèque, a présenté déjà 3 spectacles lyriques, l'affaire Makropoulos de l'Océana tchèque, Don Giovanni de Mozart, et ce jeudi, la première de l'opéra Mort à Venise de Benjamin Britten. Le festival, qui n'est donc qu'à son début, a déjà apporté au public pragois des spectacles intéressants. La directrice du festival, Lenka Chaldova, explique les particularités de cette grande rencontre des troupes lyriques de toute la région tchèque.
Bien que ce festival soit organisé par l'Union du théâtre musical, cet organisme joue plutôt un rôle de coordinateur. Ce sont les théâtres eux-mêmes qui choisissent l'œuvre qu'ils désirent présenter à Prague. Quand nous examinons le programme, nous y voyons des productions d'une grande diversité, qui peuvent être quand même divisés en 2 groupes principaux. Dans la première catégorie, il y a l'opéra tchèque, dans la deuxième, l'opéra italien. À mon grand plaisir, il y a 3 opéras de l'Océana tchèque.
En effet, outre l'affaire Makropoulos sur la scène du Théâtre National de Prague, le public verra encore Yenoufa, présenté par le Théâtre de Plzeň, et Katia Kabanova dans une production du Théâtre de Ustina de Labem. Lenka Chaldová de se féliciter de cet intérêt pour Janáček.
C'est peut-être le signe que Leoš Janáček cesse d'être l'auteur très souvent sous-estimé sur les scènes des théâtres de Bohème, de Moravie et de Silésie.
Ce dimanche, le Théâtre national de Moravie et de Silésie a présenté, dans le cadre du festival, une production très attendue de Don Giovanni de Mozart dans une traduction tchèque. C'est le célèbre chansonnier silésien Jaromír Nohavica qui a signé cette nouvelle traduction. Pour dépoussiérer le chef-d'œuvre de Mozart, il a utilisé un langage simple et contemporain. L'opéra « Mort à Venise » de Benjamin Britten, présenté ce jeudi, est une coproduction de l'Opéra d'État de Prague, des festivals d'Aldenburg et de Bregenz et de l'Opéra de Lyon. C'est la célèbre nouvelle de Thomas Mann qui a inspiré à Benjamin Britten cette œuvre insolite qui se situe à mi-chemin entre l'opéra et le ballet. Le metteur en scène japonais, Yoshio Ida, s'est visiblement inspiré par le film tiré de la nouvelle de Thomas Mann par Visconti, mais a su donner à cette production aussi une beauté austère et un style qui apparente cette production au théâtre japonais. La distribution a été internationale et le rôle de Gustav von Aschenbach, personnage principal de la nouvelle et de l'opéra, a été confié au ténor Alan Hawke. L'orchestre a été dirigé par Hilary Griffiths. Bien que Mort à Venise ne soit pas un opéra facile à digérer pour un public conservateur, les spectateurs de l'opéra d'État ont remercié les protagonistes de la soirée par de longs applaudissements. Le prochain spectacle du festival sera l'opéra contemporain du compositeur tchèque Vít Zouhar, intitulé « Nuit et jour » et présenté ce samedi dans le hall du Musée de la musique de Prague. Voici maintenant la deuxième partie de l'entretien avec Daniela Foltinova, artiste tchèque installée en France depuis une vingtaine d'années. Elle expose ses mimosas dans le musée de Zlín, sa ville natale, jusqu'au 10 mai. Un de ses matériaux de travail fétiche, c'est la soie, comme elle l'a confié au micro d'Anna Kubishta.
La soie. soi, c'est pour moi une des techniques que j'utilise pour mes œuvres. Ça veut dire, je suis venue en France étudier l'art textile, mais depuis, j'ai travaillé aussi dans le domaine de la gravure, surtout le point sèche. Et en ce moment, je travaille avec la peinture sur soie. J'ai fait des installations entre la soie et les éléments naturels. Je me promène avec mes bandes de soie qui sont longues, entre 3, 5, 6 mètres. Et je les accroche sur les arbres, je les installe sur les plages et je continue à faire les schémas de soie, les schémas qui sont installés justement dans la nature. C'est la soie qui est peinte ou qui est travaillée dans mon atelier qui est en Tibes. Et après, avec cette soie très coloriée, des couleurs assez vives, je vais dans la nature et là, je photographie, je fais mes installations.
Vous avez également une activité pédagogique. Vous organisez également des ateliers pour les enfants?
Oui, je suis pédagogue parce que j'ai terminé en République tchèque, université à Brno. Je suis professeure d'art plastique. Et j'ai travaillé pendant 10 ans avec les seniors en France, au sud, à Antibes. Et maintenant, ces derniers 5 ans, je travaille beaucoup avec le plus petit. Je travaille dans les écoles maternelles tchèques et françaises et j'essaye ces techniques montrées vraiment à toutes les générations. Différents d'âge et des origines sociales, voilà.
Alors pour terminer juste, j'ai lu quelque part qu'il y avait des paroles de Auguste Rodin qui vous étaient particulièrement proches, où il dit que l'art c'est la plus sublime mission de l'homme puisque c'est l'exercice de la pensée qui cherche à comprendre le monde et le faire comprendre. Est-ce que c'est quelque chose donc dans des paroles dans lesquelles vous vous reconnaissez?
Oui, bien sûr, parce que mais il a si bien exprimé ça, c'est que je ressens aussi que je peux rien ajouter, mais c'est vrai que l'art pour moi c'est très très puissant. Et de temps en temps, on essaye de comprendre, on essaye d'écrire par le nom qu'est-ce que c'est vraiment l'art. Je pense que la première chose, il faut regarder sans expliquer, il faut rester en silence, de vivre ces moments qui est magique.
Fin de ce tour d'horizon de l'actualité tchèque et nous appelons à l'écoute tous ceux qui s'intéressent à l'économie.
Économie, commerce. Alexis Rosenzweig.
Bonjour à toutes et à tous, retour aujourd'hui sur le projet commun d'architecte tchèque et du cuisinier français Marc Vera dans la forêt de Beroun, près de Prague. Cette semaine, Marc Vera a officiellement annoncé qu'il cessait provisoirement son activité en France pour raison de santé après un grave accident de ski. Une nouvelle qui a surpris beaucoup de monde dans l'Hexagone, même si le chef 3 étoiles a précisé que ce n'était qu'un au revoir, pas un adieu. L'auberge de la Clairière, c'est le nom du projet dans lequel il souhaite s'impliquer en République tchèque. Après avoir parlé avec lui gastronomie, botanique et cuisine moléculaire la semaine dernière, cette semaine, on va parler plus précisément du projet architectural et de son financement. On écoute d'abord Peter Suske, c'est l'architecte qui a conçu le projet, qui se veut être un projet en harmonie avec la nature, articulé autour d'une chapelle, qui sera la cuisine.
La chapelle, la cuisine doit prendre cette place de construction existante. Et puis les clients de notre fameux restaurant seront disposés dans nos forêts autour de cette clairière. Chacun son propre place, son propre atmosphère avec les arbres différents, avec les plantes différentes, les arbustes différents. Avec un vue spécial, donc les tables entrées se voient pas, mais disons ils vivent leur propre atmosphère, chaque fois différente. Et l'autre partie du restaurant qui sera, disons, hivernal ou pour toute l'année quand il fait pas tellement beau, ce seront les petits cabanes qu'utilisent les chasseurs qui sont montés sur les pilotis en bois, donc vous vous trouvez quelque part au milieu des courants des arbres et vous êtes installé dans cette petite cabane. Ils ont unidirectionnellement, si je peux dire, donc tout le monde est orienté dans un sens comme sur un tableau de la dernière dîner de Jésus. Et donc de nouveau, chaque table a son propre vie et son environnement qui est organisé pour eux. Et si vous vous promenez dans la forêt, vous réciproquement vous voyez ces tableaux avec les clients qui sont bien encadrés dans les cadres dorés en bois dans les courant des arbres.
Et ce qui est important aussi dans ce projet, c'est l'écologie.
Et mais évidemment, l'écologie sera omniprésente, mais qu'est-ce que c'est l'écologie? Donc pour nous, c'est vraiment un accord avec tout ce qui est autour de vous maintenant. Donc évidemment, quand on se trouve dans une forêt, on va utiliser le bois parce que c'est le plus logique et plus naturel. Pour la cuisine, ce sera la pierre parce que c'est quand même un monument, la cuisine, si, surtout si c'est la cuisine importante et spéciale comme de chez Marguerite. Et puis, évidemment, énergétiquement, c'est tout à fait indépendant parce que on va capter l'énergie solaire et on va utiliser les pompes à chaleur pour capter l'énergie.
Un laboratoire moléculaire est également prévu dans le projet de Peter Suske qui doit servir de centre de formation pour les chefs en herbe. Un nouveau concept, selon Marc Vera.
Pour un chef 3 étoiles, la gastronomie, c'est la vitrine. Moi, je suis persuadé que l'expérience qu'on va faire à Prague, on sera obligé d'avoir notre image à travers un laboratoire moléculaire, à travers quelques tables d'invitation autour de celui-là. Et puis pour rentabiliser le projet, on sera obligé de faire quand même du couvert, d'être absolument beaucoup plus accessible. C'est ce qu'on appelle les nouveaux concepts. Ça, c'est obligatoire.
Dans un contexte de crise économique, un tel projet a-t-il des chances de voir le jour? Et si oui, d'ici combien de temps? Zdeněk Reinisch, architecte lui aussi, est l'un des initiateurs de ce projet. Selon lui, il faut entre 60 et 100 millions de couronnes, entre 2 et 3 millions et demi d'euros.
Nous avons déjà calculé le temps nécessaire par rapport à la législation tchèque. Le minimum, c'est 36 mois. Donc, 3-4 ans. Mais on ne peut pas faire plus vite.
Et malgré la crise, vous avez quand même de l'espoir.
Absolument. On a des bons signes, des bons groupes investisseurs. Nous croyons que oui. Et sinon maintenant, on pourrait toujours, parce qu'il y a quand même certaines possibilités de déposer toute la paperasse nécessaire pour les permis de construction, etc. Et parallèlement chercher et collaborer avec des investisseurs. Ça se croise pas. Ça peut être un travail parallèle, je suis sûr que tôt ou tard, on trouvera quelqu'un.
Une chose est sûre, en tout cas, ce n'est pas Marc Vera qui va investir de l'argent dans le projet de l'auberge de la Clairière, en tout cas pas pour l'instant.
Ah non, moi c'est pas mon problème, moi je suis là pour l'instant, on verra plus tard, mais si Dieu nous produit, sait-on jamais. Ouais. Non mais on a chacun des rôles bien définis.
Zdeněk Reinisch.
Je crois que nous tous les trois, on n'est pas assez riches pour investir, mais il faut trouver des gens qui savent, qui sentent, qui apprécient et qui ont les moyens.
On a la richesse de l'idée.
Attirer.
Et ça s'annonce comment, la recherche d'investissement?
C'est déjà lancé. On travaille déjà avec certains investisseurs tchèques, locaux, très intéressés et très intéressants. On travaille déjà avec les propriétaires de terrain. Ils étaient intéressés, mais ils n'ont pas obtenu, à un moment donné, ils n'ont pas pu obtenir, à cause de la crise, bien évident, le crédit qu'ils ont eu besoin. Mais ils sont toujours les propriétaires de terrain, ils veulent lancer le terrain dedans, ils sont très très attirés, très attachés. Et on travaille avec, on discute, on sensibilise, on a des liens grâce à Jérôme, on a des liens avec des Espagnols, il y a des Français aussi qui s'intéressent. Donc, il y aura, nous espérons, bien d'autres probablement.
Trouver des investisseurs dans le contexte économique actuel s'annonce comme une tâche difficile, mais peut-être pas impossible. C'est déjà la fin de notre émission. La semaine prochaine, à la même heure, c'est Anne-Claire Veluire qui vous présentera une nouvelle rubrique économique. En attendant, je vous souhaite de passer un très bon week-end.
Terminée. Merci de l'avoir suivi. Et si vous n'avez pas eu cette possibilité, vous retrouverez tous nos programmes sur www.radio.cz/fr.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 hours UTC on 11640 kHz. In Central Europe, you can tune in at 1330 hours UTC at 9850 kHz and every Friday and Saturday on DRM. Listeners in West Africa can listen at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 1700 hours on 15710 kHz and at 2230 hours on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 15710 kHz or at 2230 on 9435 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1130 hours UTC on 17545 kHz and at 0430 hours on 9855 kHz. In the Middle East, listen at 1130 UTC on 17545 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours UTC on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 15710 kHz, at 1400 hours on 11600 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz. In Southwest Asia, listen at 0430 hours UTC on 9855 kHz. In East Asia, listen at 2100 hours UTC on 9430 kHz. Listeners in Australia can tune in at 1800 hours UTC on 9400 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz.